Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous fait entendre le Finistère, une émission réalisée aujourd'hui avec l'association Bretagne Vivante. Et on va prendre le large, on va prendre le grand air, on va lever la tête vers les oiseaux marins, quoique parfois ils vivent assez loin du littoral, comme les goélands qui font souvent la une des gazettes. On en a déjà parlé avec notre invité de ces goélands lors d'une précédente émission que vous pouvez réécouter sur le site internet de la radio. On va en reparler un petit peu dans cette émission, mais pas seulement. On va s'intéresser aux oiseaux marins et à leurs interactions directes avec l'humain. Car on le sait, l'humain est partout, même en haute mer. Forcément, les oiseaux marins doivent faire avec. Bernard Cadieu est un ornithologue très impliqué de l'association Bretagne Vivante. Et justement, il est spécialiste des oiseaux marins. Bonjour.
Bonjour.
Ces oiseaux marins de nos contrées, de nous, on va parler de ceux qu'on voit en Bretagne en tout cas, comment vont-ils? Comment vont leurs effectifs?
Eh bien, ça dépend des espèces. Alors, il faut savoir que tous les oiseaux marins, on ne peut pas les compter tous les ans, puisque certaines espèces ont des effectifs importants et des effectifs disséminés sur tous les îlots et falaises du pourtour de la Bretagne. La même chose à l'échelle nationale.
Quand on dit ceux de chez nous, c'est ceux qui nichent chez
nous,
en gros,
ceux
c'est
qui
ça
nichent chez nous. Donc, ce qui fait qu'il y a des recensements qui sont réalisés à l'échelle nationale. Actuellement, ils sont réalisés tous les 12 ans, grosso modo. Et à chaque fois, les recensements en question s'étalent sur 3 ans, parce qu'il est impossible, pour des raisons purement matérielles et humaines, de pouvoir tout compter en un an. Et le dernier recensement national a été réalisé sur la période 2020-2022 et a permis de savoir qu'à l'échelle de la Bretagne, on a actuellement 73 600 couples d'oiseaux marins nicheurs sur l'ensemble du littoral breton pour 17 espèces à reproduction régulière.
17. Et ça, c'est bien, enfin, c'est mieux que lors du dernier recensement
Alors c'est moins que lors du précédent recensement, notamment parce que, comme on en avait parlé à l'info au sujet des goélands, les effectifs de goélands sont en diminution. Voilà. Et après, on a un certain nombre d'autres espèces qui sont plus localisées avec des effectifs plus limités, où là, on peut avoir des recensements qui sont réalisés tous les ans. Donc ça nous permet d'avoir un panorama, un état de santé disponible et actualisé régulièrement pour nos oiseaux marins nicheurs.
Et alors, quels sont ceux qui vont bien?
Alors, ceux qui vont bien, il y a notamment le guimau de Troil et le petit pingouin, qui sont des espèces qui sont concentrées sur quelques colonies de la Bretagne Nord. C'est sur l'île de Sézanne, en Ille-et-Vilaine, au Cap Fréhel, dans les Côtes d'Armor, et également aux Sept Îles, également dans les Côtes d'Armor. Les colonies finistériennes ne comptent plus que quelques couples. Et là, on a des effectifs qui sont en augmentation sur la période récente. Donc, c'est une bonne nouvelle de voir des espèces qui augmentent.
Et on a parlé récemment avec David Emery des gravelots, c'est considéré comme oiseau marin
Alors le gravelot, comme l'utriépi, est un oiseau côtier.
D'accord. Alors,
c'est-à-dire qu'il fréquente les abords du milieu marin, il va nicher sur les hautes plages, sur les îlots, à la fois sur la partie continentale ou sur la partie insulaire.
D'accord. Et le crave à bec rouge, pareil, c'est pas un oiseau marin stricto sensu?
Ah non, le crave à bec rouge a une alimentation essentiellement terrestre, il se nourrit d'insectes. Il niche effectivement sur les falaises maritimes, mais ce n'est pas un oiseau marin.
Oui, donc c'est là que je me dis, il faut peut-être définir ce qu'est un oiseau marin, tout simplement.
Alors, l'oiseau marin, c'est un oiseau qui dépend du milieu marin pour la totalité ou la quasi-totalité de son cycle annuel. C'est-à-dire que dans ces espèces-là, on a des oiseaux qui passent leur vie entière en mer. Ils ne posent les pattes à terre que pour la période de reproduction et on ne les verra jamais ni à l'intérieur des terres, ni sur des plans d'eau douce, par exemple. Voilà.
Sauf les goélands.
Sauf les goélands ou d'autres espèces comme les sternes, les sternes, notamment la sterne Pierre Garin qu'on a chez nous, qu'on peut trouver à la fois en milieu marin et en milieu continental sur des cours d'eau intérieurs. On la retrouve sur les cours d'eau de la Loire, de l'Allier, en France continentale, sur plein d'endroits. Voilà.
Et c'est les oiseaux qui sont plus menacés, c'est ceux-là, enfin, c'est qui en fait à part...
Alors, par rapport aux espèces qu'on a en Bretagne, l'espèce qui a le plus souffert dernièrement, c'est le fou de bassin. Le fou de bassin, la grosse colonie des Sept Îles, qui avait déjà des soucis au niveau alimentation ces dernières, depuis une décennie, grosso modo, et qui a été très fortement impactée par l'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène. pathogène et qui a impacté toutes les colonies de foudre-bassin d'Europe et quelques-unes d'Amérique du Nord en 2022, et qui a entraîné une énorme chute des effectifs, puisque foudre-bassin des sept îles sont en gros passés de 18 750 couples en 2022 à 11 600 couples en 2023, ce qui fait une baisse de près de 40% des effectifs, directement liée à une mortalité massive des adultes.
Il en reste quand même.
Il en reste quand même, oui, mais à l'échelle européenne, plusieurs grosses colonies ont été très sérieusement impactées. Fort heureusement, depuis l'épisode de 2022, en 2023 et 2024, il n'y a pas eu de nouvelle épidémie. Enfin, il y a eu à nouveau de l'influenza aviaire, mais qui n'a pas impacté les colonies de foudre-bassin, qui a impacté d'autres espèces. Donc, le statut de la colonie des foudre-bassin des sept îles était déjà un peu précaire. La situation avait changé. Et donc ça a mis un coup de frein aussi à l'évolution des effectifs.
Et c'est quoi leur problème alimentaire quand ce n'est pas la grippe aviaire
Par le passé, on s'est aperçu que, parce qu'il y a des études qui sont menées par des collègues sur les colonies des sept îles, avec la pose de GPS pour suivre le trajet des oiseaux, et ils se sont aperçus que durant les dernières décennies, petit à petit, les foudre-bassin des sept îles ont dû aller de plus en plus loin pour chercher à manger, pour nourrir leurs petits.
Parce qu'ils mangent quelque chose de très spécifique?
Alors, ils se nourrissent d'un certain nombre d'espèces, dont certaines sont pêchés, donc ça, il peut y avoir des interactions avec les stocks de poissons exploités par les pêcheries. C'est-à-dire que la manche ouest pour le foudre-bassin est devenue moins favorable qu'elle ne l'était auparavant. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que dans le même temps, je l'ai dit, pour les guillemots et les pingouins, dans la même zone marine, on a une situation qui, elle, est favorable à ces deux espèces. Donc
alors qu'ils mangent la même chose, quoi.
Alors ils mangent des poissons, mais ils ne mangent pas les mêmes poissons et ils ne mangent pas les mêmes classes de taille de poissons. Donc ce qui peut être favorable pour l'un peut être défavorable pour l'autre dans un contexte de réchauffement des eaux marines.
Donc le foudre-bassin est fragile du fait de son régime alimentaire, et si pour la grippe aviaire, on sait comment il l'a attrapé, on a une idée de ça.
Alors il faut rappeler quand même que la grippe aviaire, ou l'influenza aviaire, selon les termes qu'on utilise, c'est quand même quelque chose qui est lié aux activités humaines, puisque l'influenza aviaire hautement pathogène est apparue en 1996 dans un élevage de volailles en Chine. C'est pas un virus naturel, donc c'est un virus lié aux exploitations
humaines. Aux élevages intensifs.
À l'élevage intensif, tout à fait. Et après, ça s'est propagé parce que les oiseaux, ça migre. Et donc, petit à petit, la grippe aviaire, elle a colonisé, elle a touché les oiseaux marins à l'échelle mondiale, puisque même l'Antarctique est touchée aujourd'hui. Et elle a aussi eu un fort impact sur des mammifères marins, notamment en Amérique du Sud.
Ah oui ?
Oui.
Quel mammifère ? Qui a attrapé la maladie ?
Oui, des lions de mer, des otaries, des phoques, oui, qui ont été touchés par la maladie, avec des fortes mortalités également.
Et les foudre-bassin, on sait pourquoi ils sont particulièrement sensibles à la maladie ?
Alors, pourquoi ? On ne sait pas. Depuis l'épidémie, sur un certain nombre de colonies, il y a des prises de sang qui ont été faites sur les oiseaux pour essayer de mieux comprendre si on retrouve des traces d'immunisation, etc. Donc ça, c'est des travaux scientifiques qui sont en cours, pour essayer de mieux comprendre. Et donc 2022, c'est le foudre-bassin qui a été fortement impacté. 2023, c'est à l'échelle de la Bretagne, c'est les sternes, avec une grosse colonie de sternes à l'île aux Moutons, l'archipel des Glénans, qui a été fortement impactée. Et la quasi-totalité des poussins sont morts liés à l'épidémie, et une partie des adultes également.
Et donc ça, c'est la faute à pas de chance aussi.
C'est la faute à pas de chance, sauf qu'à l'origine, c'est quand même l'élevage intensif, une fois.
Oui, bien sûr. Savoir qui est touché, espèce ou quelle colonie, c'est juste parce qu'ils l'ont croisé, ils ont croisé la maladie.
C'est ça. Et après, d'accord, il faut bien comprendre que les colonies d'oiseaux marins, en période de reproduction, c'est des colonies qui sont très denses, avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'individus qui sont installés très proches les uns de l'autre. Donc dès qu'il y en a un qui éternue, tout le monde est malade autour. Voilà. Et si je reprends le cas du foudre-bassin, la mortalité sur les colonies se faisait par patch, et c'est-à-dire que ça créait des clairières en quelque sorte dans la colonie de mortalité massive. Voilà.
Mmh. Et alors, à part le fou, quelles sont les espèces qui sont plus menacées?
Alors, à part le foudre-bassin, on a des espèces avec des effectifs très, très réduits. On a notamment le macareux moine, avec son bec coloré, où il ne reste qu'une cinquantaine de couples en Bretagne. On a également la sterne de Dougal, où il ne reste qu'une trentaine de couples, et également la sterne naine, pour laquelle il ne nous reste qu'une vingtaine de couples. Donc on a quand même des espèces qui ont un statut précaire, malgré des mesures de protection qui sont mises en œuvre pour tenter d'enrayer le déclin.
Et ces espèces-là sont victimes de quoi? De la disparition de leurs habitats ou de leur nourriture ou...
Alors, dans le cas du macareux, c'est plus global, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte de réchauffement des eaux marines. En Bretagne, on est à la limite sud de l'aire de répartition, donc ces espèces qui ont une répartition plus nordique, et quand l'eau se réchauffe, on a plutôt une contraction de l'aire de répartition vers le nord, voilà. Ce qui n'est pas le cas pour ses cousins guillemots et pingouins, voilà. Mais c'est ça qui est intéressant à observer, c'est qu'on a des évolutions contrastées. Et après pour les sternes, bah les sternes, c'est les espèces qui sont les plus sensibles aux dérangements humains parce qu'elles nichent sur des îlots qui peuvent être accessibles en bateau, par exemple. Et un débarquement ou un dérangement intempestif peut entraîner l'envol de la colonie. Et quand les oiseaux ou les adultes s'envolent, ça laisse les œufs ou les petits poussins exposés à d'éventuels prédateurs. Et puis, si les dérangements sont répétés, ça peut aussi entraîner la désertion de la colonie.
Et là, en Bretagne, ils sont signalés, ils sont bien protégés, les endroits où elles nichent.
Alors, normalement, c'est protégé, c'est signalé, il y a un balisage, voilà, mais il y a toujours des gens qui ne respectent pas les mesures.
Et puis après, le dérangement peut venir de la mer aussi, enfin, par les activités nautiques éventuellement ou...
Alors, les activités nautiques, on a des espèces, qui ne nichent pas chez nous, comme le puffin des Baléares, par exemple, qui niche, comme son nom l'indique, au Baléares, et qui, lui, là, on est à la période, on est début mai, à la période où les premiers viennent passer l'été chez nous, après leur saison de reproduction, ils viennent estiver chez nous. Et ces oiseaux, quand ils muent leur plumage, ils ont une dépense énergétique qui est plus importante. Et ils forment alors sur l'eau ce qu'on appelle nous, des radeaux, c'est-à-dire qu'on a des rassemblements de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'individus. Et automatiquement, tout dérangement lié aux activités nautiques de loisirs ou professionnels avec des bateaux qui passent dans les radeaux et qui obligent les oiseaux à s'envoler régulièrement sont préjudiciables à l'espèce également. Et dans le Morbihan, par exemple, les collègues ont des opérations de maraude en mer pour sensibiliser les plaisanciers justement au fait de respecter, de ne pas effaroucher les radeaux et de respecter une distance minimale.
Ah oui, ça peut être étendu un radeau, enfin en mètres carrés, je sais pas.
Oui, c'est étendu, on peut avoir... Visuellement, ça peut faire un gros trait noir sur la mer, ouais, avec ils sont tous massés les uns contre les autres.
D'accord. Et les goélands, donc, on va quand même en dire un mot, parce que eux, leurs effectifs aussi commencent à diminuer fortement.
Oui, les trois espèces de goélands, goéland argenté, le brun et le marin, sont aujourd'hui en diminution en Bretagne, alors que par le passé, ce n'était pas le cas. Donc, c'est effectivement un retour à la situation d'avant. Quand ils n'avaient pas connu leur boom démographique avant que notre civilisation du déchet ne leur fournisse des repas gargantuesques à profusion, pas quasi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les grandes décharges, voilà, qui leur avaient permis d'avoir des effectifs qui avaient augmenté très rapidement.
Pour les trois espèces, même les marins et bruns.
Alors notamment le goéland argenté et le goéland brun. Le marin, c'est un peu différent, il va moins sur les décharges, mais il se nourrit aussi des autres espèces. Donc quand les bas argentés et les bruns étaient très nombreux, ils pouvaient aller piller les nids de ses voisins.
Ah oui, donc ils sont très liés en fait entre eux, malgré tout, quoi.
Oui. Le goéland argenté, lui, c'est notre éboueur du littoral. Il est charognard et omnivore, donc il va se délecter de tout ce qui est animal mort, etc., plus de tous nos déchets divers et variés.
Et donc, eux, les goélands argentés, donc, ils ont souffert de la disparition des décharges à ciel ouvert, mais on ne va pas trop s'en plaindre quand même.
Non, tout à fait.
Voilà. Mais aussi, il y a eu des campagnes de stérilisation parce qu'ils s'installaient en ville, quoi. C'est ça. Enfin...
Oui, ils sont installés en ville et l'humain n'aime pas quand on vient troubler son quotidien. Voilà. Donc, comme pour beaucoup d'espèces, hein, quand ça le gêne, il faut éliminer ce qui gêne. Et donc, depuis les années 90, effectivement, il y avait des campagnes de stérilisation des œufs qui étaient menées dans un certain nombre de villes pour tenter d'enrayer le phénomène. Puisqu'à l'origine, une des hypothèses était d'expliquer aux goélands, entre guillemets, que s'ils échouent tous les ans en ville, ça veut dire que la ville, c'est pas intéressant, donc il faut retourner s'installer sur les îles. Et en fait, cette hypothèse, ce n'est pas du tout vérifiée. C'est-à-dire que s'ils échouent régulièrement sur un toit, bah, ils vont aller s'installer sur un autre toit de la même ville ou sur un toit de la ville d'à côté. Donc en fait, plus on cherche à gérer la nuisance, plus on engendre de nouvelles nuisances.
Et la stérilisation des œufs, ça a eu une efficacité, mais ça ne les a pas empêchés de venir nicher en ville, c'est ça quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à Brest, par exemple, le slogan des opérations depuis le début, c'était « moins de petits, moins de bruit », puisque la période d'élevage des poussins était la période la plus bruyante. Le goéland se lève tôt et se couche tard. Et donc, effectivement, en termes de troubles du voisinage, c'était ça, les principales remontées de la part des habitants. Donc, sur les secteurs qui ont été traités depuis les années 90 à Brest, par exemple, on est passé, sur les deux gros secteurs qu'il y avait, on est passé d'un peu plus de 800 couples à moins de 100 couples actuellement.
Oui, donc ça a vraiment marché, enfin, ça a fonctionné.
Ça a fonctionné, les habitants, si vous allez voir les habitants, ils vont vous dire qu'effectivement, les nuisances sonores n'ont plus rien à voir avec ce que c'était par le passé. Sauf qu'à l'échelle de la ville de Brest, on est toujours de l'ordre de milliers de couples, parce qu'ils sont allés s'installer ailleurs.
Ah oui, d'accord. Et c'est, comment on fait concrètement pour les stériliser? C'est quoi, c'est un produit ou...
Alors aujourd'hui, la stérilisation se fait avec de l'huile végétale, qui est aspergée sur les œufs, et ça va obturer les pores de l'œuf, empêcher les échanges gazeux, et donc l'embryon ne se développe pas. Et l'œuf reste intact, comme si tout était normal.
Donc les parents ne réagissent pas,
donc
ne répondent pas par derrière.
Voilà, les oiseaux continuent à couver comme si de rien n'était.
Donc ça a quand même eu un impact net sur la population globale des goélands, où on peut le mesurer ou pas?
Bah, disons aujourd'hui, sur un certain nombre de colonies urbaines, ça a permis de stabiliser les effectifs. Ça n'a pas permis d'engendrer une diminution durable. Voilà. Et donc effectivement, aujourd'hui se pose la question de savoir que l'on a une espèce qui en milieu naturel est en déclin. Elle se porte plus ou moins bien en milieu urbain. Et aujourd'hui, on a un peu plus d'un tiers des effectifs bretons du goéland argenté qui sont en ville. Et cette proportion dépasse même les 50% à l'échelle du Morbihan, par exemple. C'est-à-dire que le dernier refuge de nos goélands argentés devient la ville. Donc, en termes de gestion de l'espèce, ça pose question.
Ben oui.
Et c'est pour ça que sur ces questions de stérilisation des œufs, Bretagne Vivante mène des actions aussi pour faire comprendre que les dossiers devraient être traités avec plus de rigueur qu'ils ne le sont actuellement.
Ah oui ? Comment ça ?
C'est-à-dire qu'il faut faire une évaluation de la situation, combien de goélands, à quelle répartition à l'échelle de la commune, qu'est-ce qui va être traité, pourquoi ça va être traité, en réponse à quelle plainte ou à quel besoin, etc. Et d'évaluer justement l'impact dans la durée pour savoir si c'est réellement efficace ou si ça ne l'est pas.
Donc, moyennant quoi, il y a deux villes là qui ont annoncé qu'elles arrêtaient la stérilisation ?
Oui, en Normandie, la Grandville avait arrêté il y a déjà quelques années en se disant que le goéland étant une espèce en diminution, il valait peut-être mieux chercher à cohabiter avec le goéland et trouver des solutions plus satisfaisantes pour tout le monde. Et donc Douarnenez a suivi depuis 2 ans maintenant et Concarneau a également décidé cette année d'arrêter les opérations.
Et à Granville, comment ils ont fait pour justement favoriser la cohabitation
humaine ? Alors à Granville, ils ont lancé un grand projet associant les habitants et les services de la ville sur différentes thématiques, la gestion des déchets, l'information, la sensibilisation, etc. etc. Voilà. À Douarnenez, il y a également une association qui mène des actions de sensibilisation, d'information du public. Ils organisent des cafés goélands.
Istopia, c'est ça ?
Oui, Istopia, ouais. Tout à fait, où ils débattent de pourquoi le goéland est arrivé en ville, etc. Voilà, pour sensibiliser le public, à leur expliquer que si le goéland est venu en ville, c'est parce qu'on lui a favorisé l'accès à la ville en lui fournissant à manger et qu'on continue à lui fournir à manger. Donc la nourriture est le nœud du problème.
Et c'est quoi comment est-ce qu'on le... Enfin, il n'y a quand même pas des gens qui nourrissent les goélands comme certains nourrissent les pigeons,
si,
c'est
si,
ça
si, 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 on trouve, on trouve ça également. Ouais.
Ah, d'accord. Et alors, sinon, c'est quoi leur source de nourriture en ville, c'est...
Ah ben, le goéland est opportuniste et omnivore. Hein. Tout ce qui tombe par terre et qui s'avale est bon à se mettre sous le bec.
Il y en a qui volent aussi, c'est vrai, on en a vu. Voilà. Qui volaient des glaces aux passants.
Donc le goéland fait régulièrement l'objet d'une attention particulière dans les médias. Les premiers poussins sont en train de naître. En général, c'est pendant l'été, au moment où justement tous les jeunes gambattent sur les toits que le goéland fait l'actualité.
Et puis alors, quand on revient en mer, parce que les humains, je disais, sont vraiment partout, ils ne sont pas seulement en ville, ils sont aussi, donc, soit ils naviguent pour pêcher, enfin, ou ils naviguent tout court pour la plaisance, soit ils font du forage, soit ils font d'autres activités. Donc là, qu'est-ce qu'on sait des interactions entre les humains de la mer, voire de haute mer, et les oiseaux?
Alors déjà, sur le milieu marin, on en a parlé un peu, il y a l'impact des activités humaines qui fait qu'on a un réchauffement des eaux marines, donc il va avoir des répercussions sur la vie marine, sur le plancton, sur les poissons, en gros sur la nourriture des oiseaux marins, ça c'est un fait.
Donc ça c'est un impact indirect, on va dire.
Après, notre civilisation du déchet envoie également en mer des tonnes de déchets plastiques, de microplastiques ou de macroplastiques, macroplastiques dans lesquels les oiseaux peuvent mourir enchevêtrés, par exemple.
Quand il y a des continents, enfin, ce qu'on appelle les continents de plastique ou des choses comme
ça n'a pas besoin d'être aussi dense que ça. Ils peuvent s'en mêler dans des filets de pêche, etc. Et puis après, il y a l'ingestion de particules plastiques, parce qu'on a un certain nombre d'espèces qui s'alimentent en picorant à la surface de l'eau un certain nombre d'espèces proies, et qui prennent les morceaux de plastique pour des proies. Et on a certaines espèces, notamment les puffins et les fulmars, qui, quand ils reviennent donner à manger à leurs poussins, ils vont régurgiter de l'huile directement dans le bec du poussin. Ce qui fait que le plastique ingéré par l'adulte en mer va se retrouver dans le poussin. Avec des quantités tellement importantes des fois que ça entraîne des occlusions intestinales et de la mortalité massive. Voilà. Donc le plastique est également une menace particulière. Et dans les menaces en mer les plus récentes, il y a tout ce qui concerne les énergies marines renouvelables. C'est-à-dire que les grands champs d'éoliens, les grands champs éoliens offshore, ils se retrouvent, ça fait d'immenses barrières au milieu des voies de navigation et des trajectoires de vol des oiseaux marins, d'une part. Selon les endroits où c'est implanté, ça peut aussi avoir des impacts, parce que le parc va être installé sur une zone d'alimentation ou sur une zone d'hivernage des différentes espèces. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et la multiplication des parcs va aussi avoir des effets cumulés, c'est-à-dire que les espèces qui migraient, pas en ligne droite, mais de manière quasi directe auparavant, en gros, si on a des champs éoliens partout, ça veut dire que, comme sur une piste de ski, il faut tirer des bords pour passer une porte à gauche, une porte à droite et arriver jusqu'au milieu de l'Atlantique.
Voilà. Parce que, pour avoir une idée, les champs éoliens, c'est la hauteur, c'est quoi des éoliennes de haute mer enfin...
C'est entre 200 et 300 mètres.
Et les oiseaux, ils volent
Les oiseaux, ils volent, selon les espèces, entre quelques mètres au-dessus de l'eau jusqu'à plus une centaine de mètres.
Ça. Oui.
Mais après, c'est surtout le rotor qui est des pales qui est une circonférence la plus importante. Et donc, on a un certain nombre d'espèces qui, d'une part, volent à la hauteur des pales et qui n'ont pas de stratégie d'évitement. Si on prend, tout à l'heure on parlait du fou de bassin, le fou de bassin a une stratégie d'évitement, c'est-à-dire que quand il est en mer, il ne passe pas à travers les parcs marins, les parcs éoliens, pardon. Il va bifurquer à gauche ou à droite avant d'arriver dans le parc.
Il les contourne.
Il les contourne. Ouais. Voilà. Donc si on a plein de parcs sur son trajet, ça veut dire qu'il doit contourner plein de fois.
Donc d'énergie.
Plus d'énergie à dépenser. Voilà.
D'accord. Okay.
Et on a d'autres espèces qui, elles, passent à travers les parcs et du coup, pour lesquelles il y a une augmentation. Du risque de collision.
Oui, c'est ça, parce qu'en plus, les pales de ces éoliennes, elles sont quand même très longues, c'est-à-dire qu'elles descendent, elles montent et elles descendent.
Tout à fait.
Mmh, okay. Même s'ils volaient bas, ça ne serait pas vraiment une solution. Ou alors, il faudrait vraiment qu'ils volent en rase-motte.
Oui, on a des espèces qui volent, on a les puffins, par exemple, qui volent, eux, très bas sur l'eau et qui sont hors du rayon d'action des pales. Souvent, sur les rotors, on a trois pales, donc il y a un réel risque de collision. Et parmi les espèces sensibles à ça, on retrouve les goélands. Donc, qui pourrait avoir une mortalité accrue également liée à ces impacts-là. Donc, il y a actuellement à l'échelle mondiale et européenne un certain nombre d'études. Et Bretagne Vivante travaille sur ces aspects-là également, à la fois sur les parcs éoliens du sud de Bretagne et sur les parcs éoliens du nord de la Bretagne, pour essayer de mieux comprendre et mieux appréhender une éventuelle mortalité additionnelle qui serait liée à ces activités humaines.
Donc vous allez sur place, vous restez un certain temps, vous regardez ?
Alors il y a plusieurs possibilités, soit c'est des études sur site pour voir quelles sont les espèces présentes et quelles sont les espèces qui étaient présentes avant l'installation du parc, pendant la période de travaux d'installation du parc, après une fois la mise en service du parc. Et c'est également le cas, comme c'est fait dans le Morbihan, avec la pose de mini-GPS sur le dos des oiseaux, qui vont permettre de renseigner et de voir justement, en fonction de leurs activités, est-ce qu'on les retrouve dans le parc, est-ce qu'on perd leur signal dans le parc, indiquant potentiellement qu'il y a eu de la mortalité, etc. Donc c'est tout un certain nombre d'études qui sont mises en place pour essayer de mieux comprendre justement et mieux appréhender l'éventuel impact de ces parcs éoliens.
Oui, et donc c'est encore trop tôt pour parler de solutions de protection des oiseaux malgré les parcs. Enfin,
Oui, parce que selon les espèces, on a des espèces qui volent plutôt le jour, d'autres qui ont des espèces qui volent la nuit. Il y a des tests qui sont faits avec des radars, etc. Enfin, il y a plein de recherches. Donc c'est... Dans les menaces en mer, oui, ça fait partie des dernières. Et dans les autres menaces en mer récurrentes, il y a les captures accidentelles dans les engins de pêche aussi.
Ah oui, ça alors. Par exemple, le cormoran qui plonge, on va le capturer au filet sans
faire exprès. comme le pingouin ou le guimau qui plonge et qui, à certains endroits, vont se retrouver dans les mêmes zones que... Ben, ils sont là où il y a du poisson, donc s'il y a des filets qui sont posés aux mêmes endroits, et ben, on va avoir une mortalité plus ou moins importante également liée à ces captures accidentelles.
C'est quel genre de filet en général qui attrape des oiseaux de mer comme ça?
C'est des filets qui sont calés au fond, c'est pas des chaluts qu'on traîne, c'est des filets qui sont capturés. Et à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, les espèces d'albatros sont sérieusement impactées, eux non pas par des filets, mais par ce qu'on appelle les palangues, c'est-à-dire des kilomètres de fil avec des hameçons.
Ouais.
Et en cherchant à attraper la proie qui est l'appât qui est mis sur l'hameçon, ils vont se retrouver noyés. Et donc là, on a au niveau mondial, les albatros ont très fortement souffert de cette mortalité.
Et nous, on n'a pas d'albatros en Bretagne.
On n'a pas d'albatros en Bretagne, mais on a des palangres qui...
Ah ça oui, on en a. Ouais, voilà, ouais.
Qui peuvent aussi occasionner la mortalité de certaines espèces.
Eh ben, merci beaucoup Bernard Cadieu. On va rester sur cette note pas toujours très positive. On retrouvera Bretagne vivante eh bien, encore une fois dans cette saison. Ce sera le 12 juin et on peut réécouter toutes les émissions sur le site de la radio. Au revoir.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Dans un instant, il y aura de la lecture pour les grands avec Locus Solus, un spectacle